Mardi, nous entendions que la résurrection est une manière d'exprimer quelque chose sur l'identité humaine, une façon d'élaborer un discours qui exprime le fait que nous ne sommes pas soumis à des déterminismes, que nous ne sommes pas soumis à la fatalité d'un ordre, qu'il soit social, religieux, civilisationnel, culturel. La résurrection exprimant une sorte de liberté par rapport à des conditionnements, par rapport à un destin, le fatum. Hier, nous avons entendu de quelle manière la résilience pouvait entrer en écho avec justement cette thématique de la résurrection, en particulier sur le plan individuel, lorsque le psychisme d'une personne est comme tétanisé, comme arrêté dans son élan, comme en quelque sorte suspendu. La possibilité de reprendre pied dans une histoire qui jusque-là nous échappait. Et puis ce soir, nous allons, dans un troisième volet, interroger à nouveau ce concept de la résurrection pour voir de quelle manière il peut entrer véritablement en résonance avec notre vie personnelle, notre vie collective, notre vie en société. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Daniel Constantin, je t'invite à me rejoindre d'ailleurs à cette tribune. Daniel Constantin qui viendra nous parler justement de la résurrection à la fois dans le champ social, mais aussi dans le champ économique. Il a finalement une double compétence pour cela, à la fois en tant que président honoraire de l'association GAM et puis aussi d'Adage d'ailleurs, qui sont très impliqués, très engagés dans le travail social. Et sans vouloir présager de ce qu'il nous dira, il me semble que ce sont des lieux où il est possible de ressusciter l'humanité quand elle est terrassée. Et puis, en tant que préfet, mais aussi en tant que dirigeant, je dirais, impliqué dans la vie professionnelle, il saura nous dire de quelle manière l'activité économique, le travail peuvent peut-être être des lieux où, comme nous l'avons entendu dans une certaine mesure dans le livre du Deutéronome, il est possible de restaurer la dignité d'une personne. Il est possible de pouvoir faire en sorte qu'une personne soit réhabilitée. Alors je ne sais pas s'il faudra dire que le travail rend libre ou rend humain ou quoi que ce soit. Ça sera la responsabilité de Daniel Constantin.
Ben,
je sais bien, c'était tout le problème de ce que je disais sur la vigilance que j'avais. Mais c'est en plus le verbe faire, Mart, qui est utilisé. Enfin bon, je n'irai pas sur ces terrains-là. Je suis tout à fait heureux de t'accueillir et je te laisse la parole sans plus tarder.
Merci James. Bon, à la fois c'est un redoutable privilège qui m'est accordé aujourd'hui. Bon, hier soir vous aviez écouté Boris Cyrulnik. Il est clair qu'aujourd'hui vous n'aurez pas ni un orateur ni un penseur. Mais je vais dire beaucoup plus quelqu'un qui est dans l'action, qui a été dans l'action, je dirais, toute sa vie, qui continue à l'être, et qui continue à être heureux d'être dans cette action. Alors, nous nous retrouvons dans le cadre du carême 2022, et je n'oserais pas faire des citations bibliques pour commencer, même si j'ai emprunté à Matthieu le titre de cette rencontre, chapitre 9, versets 6 et 7, et je commencerai par quelque chose qui, aujourd'hui, semait le doute, je vais dire, sur ce que nous pouvions faire pour faire en sorte que ceux qui sont tombés se relèvent, qu'ils puissent marcher, comme le Christ l'ordonne aux paralytiques. Et quand on lit ou quand on relit le tweet de Sibeth Ndiaye, qu'elle avait envoyé sur le réseau le 12 juin 2018, la veille d'un discours important qui se tenait à Montpellier, puisque le lendemain, le 13, le président de la République venait ouvrir le congrès de la Mutualité française. Alors, je cite ce tweet parce que je crois qu'il est quand même... Il y a un moment où vraiment, il nous interroge à la fois dans ce que nous sommes, dans ce que nous croyons et dans ce que nous faisons. Le tweet était celui-là, la politique sociale, regardez, on y met un pognon de dingue, expression qui est restée, dans les minima sociaux, les gens sont quand même pauvres, on n'en sort pas, quand les gens naissent pauvres, ils restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres, il doit y avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Bon, c'était quand même un constat, je vais dire, assez angoissant, et de se dire si c'est vrai, si ça est véritablement vrai, je fais un pléonasme volontairement, c'est peut-être aussi parce que il y avait besoin d'un certain sursaut, et ça nous amène à demander qu'est-ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Alors, bon, on va sortir de cette polémique et des propos caricaturaux auxquels ont pu donner lieu ces propos, et pour savoir, d'abord, s'informer sur la dépense sociale, puisqu'il s'agit bien de cette dépense sociale, et savoir aussi, compte tenu de cette espèce de mur qui est devant nous, si véritablement ça vaut le coup de s'engager, si vraiment ça vaut le coup de faire quelque chose, et si on ne s'embarque pas dans une galère qui est destinée, je veux dire, à échouer quoi qu'il arrive, et à périr quoi qu'il arrive. Bon, c'est vrai que malgré une forte augmentation, je veux dire, du soutien public, le taux de pauvreté dans notre pays, ou du moins, est toujours légèrement supérieur à 14% de la population, même si cette notion de pauvreté doit être relative, puisqu'elle s'applique, je veux dire, à des chiffres, donc je ne vais pas en livrer trop, mais au fond, on estime qu'est pauvre celui qui est à 60% du revenu médian. Autrement dit, celui qui, pour une personne seule, reçoit ou peut recevoir environ 1063 euros par mois. Alors après, il y a des calculs subtils. On met pour la seconde personne 0,5 si elle a plus de 14 ans. On met 0,3 si elle a moins de 14 ans. Bon, je vous fais grâce de tout ça. Et on estime, en plus, je dirais, c'est que 41% de ces revenus, de ces personnes qui sont en dessous de ces 1063 euros par mois, 41% proviennent non pas de l'activité, mais proviennent, je dirais, des minima sociaux. Dire à quel point, je veux dire, s'il n'avait pas ça, bien entendu, le drame serait beaucoup plus grave. Bon, et ça, je veux dire, on est, je dirais, dans notre pays. Au niveau international, l'ONU évalue à 3,4 milliards le nombre d'individus qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté, qui est fixé non pas à 1063 euros, mais à 5,5 dollars par jour, et qui a 1,9 milliard d'habitants qui vivent, eux, en dessous de 3,20 dollars par jour. Alors, bon, là, il y a quand même quelque chose qui est un peu compliqué. C'est pour ça que, je dirais, moi, les chiffres m'interrogent toujours, parce qu'ils ne correspondent jamais. On nous dit que la population est passée de 36% en dessous du seuil de pauvreté en 1980 à 10% en 2015. Si on fait le rapport, on trouve que le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10% de la population mondiale, ça ferait 900 millions d'habitants. L'ONU nous dit 3,4 milliards. Bon, donc, oui, là, il faut aussi, je dirais, quand on reçoit des chiffres, être capable aussi, de temps en temps, de leur donner qu'une valeur relative. Bon, mais ces chiffres, simplement, ne suffisent pas à exprimer ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est à la fois, je veux dire, des conséquences sur la santé des personnes, sur leur logement, sur leur sécurité, sur l'égalité des droits, qui sont pour beaucoup, je veux dire, quelque chose de difficilement accessible. Alors, je voudrais, en abordant ce soir cette intervention, parler un peu, je veux dire, des trois méthodes de connaissance qui vont nous permettre d'avancer et qui doivent aussi nous conduire. C'est ce qu'indique Pascal. La vérité, c'est ce que nous voyons avec nos sens, avec nos yeux. C'est ce que nous voyons avec notre connaissance, la réflexion que nous avons. Et puis, c'est aussi ce que nous ressentons avec notre cœur. Et c'est ça qui nous permet à la fois de comprendre, de s'émouvoir et peut-être aussi de s'engager. Et c'était bien ça, je dirais, l'objectif qui doit être le nôtre. Bon, d'abord, est-ce que véritablement ce pognon de dingue, ça marche pas? Première chose qu'il faut se poser, est-ce que véritablement ça ne marche pas? C'est un peu court, je veux dire, comme réflexion. Et quand on sait que ce chiffre de 32,5% du produit intérieur brut consacré, je veux dire, aux dépenses sociales, je dirais qu'est le budget social de la nation, Qu'est-ce que ça recouvre? Bon, ça recouvre un tas de choses. D'abord, ça c'était avant le Covid et avant les derniers moments que nous connaissons avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. Ça relève des prestations très, très diverses. Et est-ce qu'elles ont pour effet, comme l'ordonne le Christ aux paralytiques, de se relever et de marcher? Bon, est-ce que véritablement, je veux dire, ces dépenses ont bien ce rôle-là? Alors il faut distinguer des objectifs qui sont des objectifs, je vais dire, différents les uns des autres. Le premier objectif, c'est un revenu de substitution, et les dépenses vieillesse dans notre pays, c'est ce qui représente la part la plus importante. Je veux dire, ça représente 15%, donc la moitié à peu près, des dépenses sociales qui sont consacrées aux retraites. Alors on nous explique que ça va aller mieux, que dans les 20 ans ou 30 ans qui sont devant nous, cette part du produit intérieur brut va diminuer. Là, on est aussi, je veux dire, dans ce que l'on sait, ce que l'on croit, et on n'est sûrement pas dans la certitude, puisque nous avons vu qu'au cours des dernières 50 ans, cette part de produit intérieur brut a été multipliée par 3. On imagine mal que cette tendance puisse s'inverser spontanément. Et donc, il s'agit bien là, je veux dire, de quelque chose qui marque durablement notre société, société qui vieillit et qui va laisser à côté non seulement ce revenu de remplacement, mais qui va poser le problème de la dépendance, celui sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et pour parler un petit peu de notre engagement dans le domaine social ici à Montpellier, et pour vous dire aussi un petit peu ce que nous avons fait de ce que vous nous avez légué en 1946, c'est-à-dire le Centre social protestant que vous avez légué en 1973 quand il s'est professionnalisé. Et donc, je suis aujourd'hui là un petit peu pour vous rendre compte de ce que l'on a fait, de l'outil que vous avez laissé entre nos mains. Savoir si véritablement, je dirais, nous avons bien rempli la mission, nous avons bien rempli notre rôle. Et vous êtes là, non pas pour m'écouter simplement, mais aussi pour juger, pour poser des questions, pour savoir si véritablement, je veux dire, le rôle a été joué comme il devait être joué, et est-ce que, je dirais, on doit faire plus, on doit faire autre chose, sachant que nous ne sommes pas exclusifs dans ce domaine et que nous partageons cette responsabilité avec beaucoup d'autres. Alors, bon, je disais, la pyramide des âges dans notre Europe laisse peu d'incertitudes sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous aurons, je dirais, une plus grande dépendance. Et c'est pour ça que nous sommes engagés au sein donc de GAM, le Centre social protestant, nous sommes engagés dans la prise en charge des personnes qui, aujourd'hui, sont plus ou moins, à un titre plus ou moins grave, victimes de cette dépendance. Alors, nous ne sommes pas seuls. Notre réflexion s'appuie à la fois sur, je dirais, les connaissances qui nous sont données, sur des engagements que nous partageons avec d'autres, sur en particulier un projet qui concerne la métropole de Montpellier, qui fait l'objet, je vais dire, d'un contrat avec l'État, avec la métropole, avec la région et le département, qui consiste non seulement, je veux dire, à assister, à suivre, à aider, mais aussi, je veux dire, à prévenir. À prévenir, c'est le projet Étape dans lequel nous sommes engagés il y a maintenant plusieurs années, qui nous permet plusieurs choses. D'abord, d'adapter le domicile à la personne de plus en plus dépendante. Deuxièmement, de mesurer cette dépendance avec un certain nombre d'éléments, de le mesurer dans sa vie au quotidien, dans sa vie chez elle. Et en même temps, je veux dire, au besoin de provoquer les interventions nécessaires pour pouvoir réagir et faire en sorte que cette personne reste toujours debout et capable, je dirais, de vivre véritablement sa liberté au maximum possible dans les conditions qui sont les siennes. Alors, nous, on a fait le choix de ne pas être présent dans les EHPAD. Bon, vous avez entendu au cours des derniers mois les scandales qui ont marqué les EHPAD, mais les EHPAD, je veux dire, il y en a quelques-uns. Bon, il y a deux groupes qui ont été un peu cloués au pilori ces derniers temps. Mais les EHPAD ont été considérés à la fois comme une source de profit, c'est-à-dire que le social est en train de se marchandiser, pour traduire un peu en français ce mot, c'est-à-dire qu'au fond, on a largement professionnalisé, et à partir du moment où on a professionnalisé au maximum, à partir de ce moment-là, je veux dire, on est rentré dans le marché. Mais il n'y a pas simplement, je dirais, des entreprises privées qui ont fait cette démarche. Il y a aussi des collectivités. Je cite le cas d'une commune dans un département où j'ai travaillé il y a quelques années, dans le Cantal, où le maire me disait que le budget de son EHPAD était deux fois supérieur à celui de la commune. Autrement dit, on a créé cette institution à la fois pour répondre à un besoin, mais aussi pour créer d'emplois. Et c'est aussi, je dirais, là, une motivation qui fait que pour répondre à ces besoins, on a mis en place cette structure. Alors, bon, nous, notre association, aujourd'hui, on reste que sur Montpellier. On a quelques actions un petit peu en dehors, j'en parlerai tout à l'heure. Mais sur Montpellier, nous prenons en charge à des degrés divers, environ 900 personnes à domicile. Ce qui représente, en gros, l'équivalent de 10 EHPAD. L'EHPAD moyen est entre 60 et 90 personnes. Donc, pour vous dire quelle est l'importance de ce que vous nous avez demandé de conduire il y a quelques années et que nous essayons de continuer. Alors, bon, bien entendu, heureusement, nous avons dans ce domaine, je dirais, des professionnels qualifiés, engagés, très engagés, pour un travail qui est un travail pénible, qui souvent est un travail qui ne donne pas lieu à une grande reconnaissance de la part des personnes que nous servons, parce que elles ont le sentiment, je veux dire, qu'elles sont rentrées dans ce système d'aide auquel on ne peut pas échapper. Mais nous leur apportons quelque chose qui est un peu différent de l'EHPAD. Dans l'EHPAD, je veux dire, elles sont un peu, je veux dire, contraintes, et elles n'ont pas la liberté de savoir à quelle heure elles vont manger, pas la liberté de savoir à quelle heure elles vont se coucher, pas la liberté de regarder tel ou tel programme de télévision, même si c'est plus de l'occupationnel que du vraiment la participation à un spectacle. Et donc, là, je veux dire, c'est ce que nous arrivons encore à faire aujourd'hui pour ces 900 personnes, alors je dis à des degrés divers, bien entendu, arriver à faire en sorte qu'elles continuent à être debout face à leur vie, face à leurs responsabilités, et qu'elles puissent encore, je veux dire, prendre un certain nombre de décisions. Dans ce domaine, nous n'arrivons pas encore à tout faire, mais notre démarche consiste à nous dire les prestations qui sont financées, soit par l'aide publique, sous différentes formes, départementales en particulier, sur la contribution des personnes ou de leurs familles, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Une bonne partie est prise en charge aujourd'hui par les familles elles-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les aidants qui sont, je dirais, d'abord les proches, pour commencer, quand ces proches existent, quand ils sont disponibles, et aussi quand ils existent. Parce que dans la population que nous connaissons, une bonne partie de ces personnes sont des personnes qui sont isolées et qui ont perdu progressivement tout lien de sociabilité qui font qu'aujourd'hui, je veux dire, elles sont aujourd'hui perdues. C'est la raison pour laquelle nous voulons et nous souhaitons développer, là je fais un peu appel, je veux dire, à des associations qui existent déjà, mais aussi à la nécessité que nous avons de compléter ces prestations qui, elles, sont financées par les fonds publics, de les compléter par des engagements bénévoles qui ne se traduisent pas par des métiers identifiés, mais qui se traduisent plus par l'enrichissement, par un rapport personnel, par une discussion, par, au fond, je veux dire, ce qui peut apporter une certaine forme de vie, d'échange, qui est indispensable pour que ces personnes puissent continuer à avoir véritablement la totalité, je dirais, de ce qui fait leur vie. Alors, là, je veux dire que nous sommes aujourd'hui dans un monde concurrentiel. Il y a O2, il y a, Petit-Fils, bon, il y a 1000 autres boutiques qui font ce travail, qui prétendent bien le faire, et je n'ai pas de raison de dire qu'ils ne le font pas bien. Mais, je veux dire, dans ce monde concurrentiel, ce n'est pas les gens qui sont enfermés dans un EHPAD où il n'y a pas de place ailleurs. C'est moins vrai aujourd'hui. Mais c'est aussi un monde concurrentiel et qui fait que nous devons mériter cette fidélité des familles qui nous confient, je veux dire, leur personne âgée, qui nous confient le prendre en soin, ou la personne âgée, nous la prenons parce qu'elle est là et parce qu'il n'y a personne pour véritablement être présent et s'en occuper. Et donc, dans ce domaine, effectivement, il faut que cette tâche soit une tâche qui soit enrichie pour que nous puissions arriver et réussir à redonner cette vie, recréer cette solidarité. Je me souviens d'un leader kanak qui était sénateur et qui s'indignait du fait qu'on envisage d'ouvrir un EHPAD à l'IFU. L'IFU aux îles Loyauté, qu'on connaît bien dans cette maison, parce qu'on a formé beaucoup de pasteurs qui sont actifs là-bas. Et il s'est indigné du fait que l'on crée un EHPAD, que l'on transfère à la puissance publique ce qui devait être la solidarité du clan. Bon, aujourd'hui, notre société a évolué, et il faut la prendre telle qu'elle est, et non pas vouloir la refaire complètement. Voilà, donc on ne peut pas s'en remettre totalement à la puissance publique. Il faut donc que notre association ne soit pas simplement un prestataire de services, mais fasse plus et soit véritablement dans l'esprit de ceux qui nous ont précédés au sein du Centre social protestant. Et puis, on invoque de nouvelles lois, l'expression laïque de l'attente du miracle. Est-ce que ça sera suffisant ? Dans l'Exode, au chapitre 20, verset 12, le commandement est clair. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Autrement dit, c'est toute cette phase successive, et on reste bien, je veux dire, dans cette espèce de volonté de ne pas simplement se livrer à des prestations, mais de garantir, je dirais, véritablement cette solidarité qui doit nous animer. Bon, dans ce secteur, tout de même, il faut aussi dire que la professionnalisation a apporté la sécurité, une sécurité par le savoir-faire des personnels, par leur engagement dans un métier complexe et parfois pénible. Et c'est... Alors, vis-à-vis des aidants, nous avons pensé qu'effectivement, eux aussi sont des personnes qui doivent être maintenues debout pour pouvoir continuer à jouer leur rôle. C'est pour ça que nous leur avons apporté progressivement, avec l'aide d'ailleurs ici à Montpellier du Rotary, d'un des clubs rotariens, pour pouvoir effectivement, je dirais, apporter cette solidarité aux aidants, les réunir de temps en temps, les informer, les conforter dans leur mission, faire en sorte qu'ils se rencontrent, faire en sorte aussi de les aider parce que leur rôle est important. Nous avons, je dois le dire, encore échoué jusqu'à présent à faire ce que nous souhaitions faire, c'est-à-dire un lieu de répit pour que... De temps en temps, je veux dire, ces aidants puissent souffler. On avait un projet qui se situait du côté de la Rose. Ce projet, nous avons dû le suspendre. Je dis le suspendre parce que le projet qui devait le remplacer du ministère de la Justice n'a pas vu le jour, pas encore, depuis 5 ans. Et je pense que dans les 5 ans qui viennent, il y a peu de chances qu'il voie le jour. Donc, si vous voulez, pour nous, il est en sommeil. Mais j'espère bien que mes successeurs pourront effectivement réaliser ce projet qui nous permettra, je veux dire, de redonner du souffle aux familles et aux aidants. Et c'est le projet que nous essayons maintenant, que nous devons un jour ou l'autre réussir à faire aboutir. Deuxième secteur, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce que nous faisons parce que ça serait fastidieux. Le deuxième secteur, c'est celui de l'accueil de l'étranger et des migrants. Alors dans ce domaine, aujourd'hui, les guerres, on a aujourd'hui bien entendu l'Ukraine qui est l'actualité, mais nous avons eu la Syrie, nous avons eu l'Irak, nous continuons à avoir toutes les guerres dans l'Afrique de l'Est, même si on en parle moins, elles sont, elles, je dirais, productrices de gros dégâts humains. On parle du réchauffement climatique, on parle de la faim, mais je dirais, la faim, très souvent, elle se traduit par des déplacements sud-sud, avant de se traduire par des déplacements vers le nord. Et, ensuite, je dirais, comme disait Nicolas Sarkozy disait qu'en matière d'immigration, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Ceux qui prétendent qu'on va l'arrêter à la frontière, je dirais, se font quelque illusion sur ce mouvement, je dirais, général. Et donc, on a bien vu que quand on pensait que ça allait se terminer, l'Ukraine est arrivée et on a aujourd'hui, je dirais, des millions d'Ukrainiens qui sont venus trouver la sécurité, le refuge en Europe. Et nous, en France, bien entendu, nous avons pris notre part. Et ici, à Montpellier, nous avons pris notre part. Et nous, avec quelque chose qui est un peu différent du migrant, parce que eux ne savent pas combien de temps durera cette horreur que M. Poutine leur inflige. Et leur souhait, souvent, c'est de retourner chez eux parce qu'ils pensent qu'ils ont un pays à reconstruire. Donc, ce sont des acteurs engagés pour la plupart d'entre eux, et nous souhaitons, je dirais, les aider à passer ce moment difficile. Alors, vis-à-vis de ce drame qu'est la migration, qu'est la demande d'asile politique, les associations ont plusieurs approches. Il y a celle de l'association militante à deux niveaux, celle qui exprime une revendication et un soutien politique, et celle dont la tradition va bien au-delà, en apportant des aides sous des formes diverses aux migrants en difficulté, quelle que soit leur situation juridique. Et là, leur motivation résulte de principes humanitaires et spirituels, et on ne peut que saluer ce qui est fait depuis 1939, en particulier par la CIMAD, qui a commencé à agir sur quelque chose qui ressemblait un peu, je veux dire, au conflit que nous connaissons aujourd'hui avec l'Ukraine. C'était les Alsaciens et le Rhin qui devaient fuir ce régime totalitaire et que la CIMAD a aidé, je veux dire, à réinstaller, à redonner des chances, à supporter pendant cette période qui a été celle de la guerre. Bon, puis ensuite, elle a poursuivi, bien entendu, son action auprès d'autres migrants. Alors, celle d'associations comme GAM, qui, je vais dire, un petit peu est entre les deux. Si nous nous contentions de faire simplement ce qui est financé, il est clair que nous n'aurions pas eu, je vais dire, nous n'aurons pas eu la mobilisation que nous avons pu avoir. Bon, on a ouvert, pour commencer, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile sur l'ancien établissement à côté du lycée Mermoz. On nous avait concédé, le maire de Nouméa nous avait dit, pas plus de 60 places. Aujourd'hui, nous sommes sur ce seul centre à 150. On l'a étendu un petit peu. Et puis, à côté, je veux dire, nous avons globalement 500 personnes que nous prenons en charge ailleurs au titre de différentes procédures. Il y a 11 démarches administratives pour prendre en charge les gens. Donc je vous fais grâce, je dirais, de cette cuisine administrative. Mais savoir que cette action en direction des migrants nous a permis de relancer fortement le bénévolat pour apprendre le français, pour tenir des vestiaires, pour ouvrir des douches, pour accompagner les gens à l'école, pour les accompagner dans la ville, et pour effectivement, je veux dire, apporter ce que, je dirais, ce qui était nécessaire, et pour éviter ce que nous voyons sous nos fenêtres. Bon, enfin, il y a eu quelques gesticulations contre notre intervention. Mais je dirais, elles ont disparu. Et si on a peur de la moindre gesticulation, je dirais, on ne fait rien. Mais je dirais, ça c'est pas grave. Pour parler du détail, ils avaient fait un mur, ils ont oublié de mettre du mortier, si bien qu'on a récupéré les agglos pour faire un parc à vélo. Bon, je remercie d'ailleurs la Ligue du Midi de ce don important qu'elle nous a fait, qui était plutôt sympathique. Sa détermination en était moins, mais... Bon, alors, aussi, je veux dire... Bon, dans cette démarche, nous, notre souhait, c'est d'essayer de faire en sorte que très rapidement, ces demandeurs d'asile puissent retrouver, je vais dire, une vie autonome. Et aujourd'hui, on est confronté à ce problème qui nous angoisse, c'est, je dirais, l'interdiction qu'il aurait faite de travailler. L'interdiction qu'il aurait faite de travailler, heureusement, je dirais, les choses sont en train d'évoluer. Parce que les Allemands nous ont montré qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre parce que leur population vieillit plus vite que la nôtre, et donc ils ont besoin de gens qui sont là. Et puis aujourd'hui, on dit les étrangers qui arrivent ne cotisent pas mais on leur interdit de cotiser. Donc je veux dire, il y a quelque chose de totalement irréaliste, et je veux dire, notre problème, c'est pas simplement d'être des gestionnaires, c'est aussi d'être des militants politiques. politique, parce que notre observation nous amène à dire des choses. Il y a deux raisons. La première, je dirais, c'est une raison d'équité, et on le verra tout à l'heure dans ce que disent un certain nombre de religions sur la constitution, la participation à la collectivité des gens qui sont aidés. C'est ce que James nous disait tout à l'heure. Mais c'est pas simplement de recevoir, c'est aussi de participer. Donc aujourd'hui, on leur interdit de participer, ce qui est concernant. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, que on les installe et on les affaiblit, plutôt que de les aider à se les relever, on les installe dans un système qui est pesant, comme on le disait tout à l'heure dans le Deutéronome, ils n'avaient pas la liberté en Égypte de décider ce qu'ils allaient faire. Or là, on les maintient dans quelque chose qui n'est pas la servitude, mais qui est une espèce d'asservissement intellectuel, en leur interdisant d'être les acteurs de leur propre destin. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, sur laquelle les choses évoluent. Les Ukrainiens peuvent travailler, et c'est une bonne chose, et on peut penser que cet exemple ukrainien, je dirais, contaminera le reste de la démarche, de façon à ce que, et puis le plein emploi aidant, s'il continue à être ce qu'il est, devrait, je dirais, débloquer un peu ce système. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu sous nos fenêtres, à rue Louise Guiraud, se passer des choses. Les réseaux de trafic de drogue, de prostitution, les proxénètes venaient chercher sous nos fenêtres, je veux dire, du personnel pour remplir leur poche. Donc, je veux dire, c'est quelque chose de très vrai. Ça n'est pas simplement de l'imagination. Nous l'avons constaté, nous l'avons vu, nous l'avons vécu, et il faut bien que nous soyons les témoins qui permettent de dire cette situation qui consiste à les empêcher d'être libres et maîtres de leur destin est quelque chose qui est profondément nuisible, à la fois pour le financement financement social, deuxièmement pour la cohésion de notre pays, et troisièmement, après tout, parce que derrière la délinquance, il y a aussi, je dirais, une certaine forme d'insécurité. Donc, je veux dire, c'est aussi à notre bénéfice, je dirais, que nous devons effectivement, je veux dire, être capables de revenir sur cette forme un peu aveugle d'interdiction de travailler. Alors sur l'immigration, on a tout dit et on a encore tout à dire. On a parlé d'immigration choisie. Moi, ça me choque profondément, ayant beaucoup travaillé, je dirais, dans des pays qui avaient besoin de matière grise, de leur dire, on va leur piquer leur meilleure matière grise, parce que nous, on en a besoin. Si on en a besoin, on n'a qu'à la fabriquer, pour commencer. Et puis, s'ils ont besoin de se développer, je dirais, ils ont des besoins qui sont supérieurs aux nôtres. Donc, cette immigration choisie, d'abord, un, ça ne marche pas, parce que si on est sur un marché concurrentiel, il y en a qui sont plus forts que nous, et les Américains ne sont pas les derniers à vider un certain nombre de pays de leurs ressources. Et nous, quand on essaye de le faire, bien entendu, ça ne marche pas terrible. Et puis deuxièmement, je dirais, on prive ces pays de leur possibilités. Donc voilà. Donc ce que je veux dire aussi, c'est, je reviens un peu, je rejoins un peu ce que disait notre pasteur tout à l'heure, c'est au fond, je dirais, la liberté par le travail. Le travail, c'est la liberté, je dirais, et celle des Juifs qui sortent de l'Égypte et qui sont maîtres, je veux dire, de leur production, qui sont obligés de travailler pour produire leur... mais qui décident de le faire eux-mêmes, c'est quelque chose, je dirais, une notion qu'il nous faut réhabiliter. Je citais récemment, mais je le referai ce soir, j'infligerai peut-être à certains de l'entendre une deuxième fois, à toi en particulier, James, quand je suis arrivé dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a nombreuses années, dans les années 80, le Nord avait un slogan, le Nord, terre de travail. Tradition socialiste, communiste, démocrate, chrétienne, l'ouvrier était fier de son travail. Et, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques intellos qui ont compris que c'était une notion obsolète et qu'il fallait trouver autre chose de plus roboratif, de plus solide et de plus engageant. Vous savez ce qu'ils ont inventé? Le Nord, un cœur qui bat pour l'Europe. Imaginez cette banalité, vu 40 ans après, ça paraît consternant d'avoir réussi à garder ce slogan qui aujourd'hui ne reste plus que quelques images, mais on a un peu oublié le slogan. Alors, je reviens à mon sujet, c'est-à-dire, donc on a vu pour les migrants, bon, pour les accueillir, leur créer des conditions, je dirais, de vie, de les remettre un peu en route, d'avoir rapidement une décision sur leur sort. Aujourd'hui, nous avons, et moi j'y suis pour rien, c'est à la fois, je dirais, nos professionnels, nos bénévoles, qui ont réussi à faire en sorte que nous tenions à peu près, sauf quelques cas particuliers, les délais pour que les gens puissent avoir une décision sur leur sort d'entre 8 et 10 mois. Je veux souligner ça parce que, véritablement, c'est un des engagements que nous avons réussi à tenir sur Montpellier. Nous avons des collègues qui, eux, sont à 3 ans. Et donc, je m'étais inquiété. Effectivement, nous avons quand même réussi parce que, véritablement, il y a cette dynamique, moi je suis pour rien, hein, qui fait que réussi à faire en sorte que très rapidement, je veux dire, on puisse sortir de ça. Bien entendu, derrière, ils ont du mal à sortir et à rentrer dans du logement autonome parce qu'il n'y en a pas assez. J'y reviendrai tout à l'heure et j'en dirai deux mots tout à l'heure. Alors, retour à l'emploi pour des personnes qui sont, je veux dire, privées d'emploi. Titulaires du RSA pour la plupart, s'ils ont plus de 25 ans. Et aujourd'hui, on se demande s'il faut pas accentuer, je veux dire, les démarches qui leur permettront de revenir le plus rapidement possible à l'emploi. Aujourd'hui, j'hésite à donner des chiffres, mais je crois qu'ils sont quand même significatifs. Sur Montpellier, chaque année, nous prenons en charge, vous dire, nous nous occupons de environ 3000 titulaires du RSA. 3000. Sur les 3000, il y en a à peu près, alors ça varie suivant les situations, entre 15 et 60% qui retournent à l'emploi. Et c'est là, je veux dire, un de nos objectifs, c'est de faire en sorte, je dirais, que ces 15% sont notoirement insuffisants parce que ce sont des personnes qui sont en extrême difficulté, qui cumulent les problèmes, santé, addiction souvent aussi, absence de formation, insécurité, absence de stabilité, des problèmes d'illettrisme aussi, qui cumulent, je dirais, tous ces inconvénients. Donc c'est là aussi où il faut que nous engagions, et je voudrais saluer en particulier ici à la bienvenue, qui a pris un petit peu la charge d'amener une nouvelle réflexion pour pouvoir effectivement, je veux dire, donner à notre mission un plus qu'elle était en train de perdre un peu dans la gestion des rites administratifs qui sont les nôtres. À côté de ça, nous avons, je dirais, la remise en condition pour l'emploi. Environ passe chaque année entre à peu près 500 personnes dans nos ateliers. 500 personnes par an dans nos ateliers. Et là, le taux de retour à l'emploi, de retour à l'emploi. Donc, si vous voyez, ce redressement, il recommence à marcher. On est à entre 50 et 60%. Et là, nous ne choisissons pas les candidats. C'est comme au bac, si vous voulez, Janson de Sailly a des résultats bien meilleurs que ceux de la Courneuve. Mais parce que le choix d'entrée n'est pas le même. Donc, si vous voyez, nous ne les choisissons pas. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Nous avons, je dirais, à les prendre en charge parce que ils sont ceux qui sont, je dirais, les plus en difficulté. Donc, je veux dire, au fond, c'est qu'on on obtient un certain nombre de résultats à travers ça. Et puis, nous avons aussi la possibilité de mettre à la disposition des personnes qui font des heures, etc. Et là, nous avons environ 135 emplois en permanence qui tournent, des gens qui ne doivent pas rester plus de 2 ans, et nous réussissons, si vous voulez, à les insérer progressivement dans l'emploi. Et c'était ça un petit peu qui fait que, je veux dire, nous avons le souhait, effectivement, de réussir un peu cette démarche. Alors, ça, bien entendu, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire tout seul, on peut le faire que parce qu'il y a autour de nous un tissu qui nous comprend, un tissu qui nous aide, un tissu qui se sent mobilisé. On ne peut pas faire comme comme disait Garibaldi au XIXe siècle, qui disait « l'Italia farà da sé », autrement dit, l'Italie n'a besoin de personne. On va faire tout ça tout seul. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il nous faut développer, je dirais, nos partenariats. D'abord, le retour à l'emploi, ça passe par de personnes en difficulté, ça passe par l'offre d'emploi des employeurs. Et ça concerne aujourd'hui donc ces 135 salariés et les 500 que nous avons à côté et qui aujourd'hui, je veux dire, peuvent trouver du travail parce que les employeurs sont persuadés qu'ils ont, je dirais, la possibilité de jouer ce rôle. C'est la mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et qui doivent réserver une partie de leurs emplois à des travailleurs handicapés ou en insertion. Il faut y ajouter aussi quelques conventions de parrainage qui nous permettent, avec le MEDEF, de faire en sorte qu'il y ait effectivement, je dirais, ce travail d'ouverture, bénévole jusqu'à un certain point, mais qui constitue, je veux dire, un des engagements que nous voyons dans les sociétés qui aujourd'hui ont besoin, elles aussi, de personnel. Et puis, il y a aussi notre détermination à obtenir que dans les marchés publics, on insère des clauses d'insertion de façon à ce qu'effectivement, je veux dire, on puisse insérer des personnels progressivement à travers les entreprises qui sont titulaires des marchés publics. Voilà, si vous voulez, ce qui se pose à nous. Alors, là, je suis heureux de voir que aujourd'hui, le Covid continue, mais on arrive à vivre malgré tout, et qu'en particulier, ce qui avait été engagé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant par l'association Carousel a permis, effectivement, je dirais, de multiplier ces contacts, de faire comprendre ce besoin aux entreprises, de les partager autour de petits déjeuners, dont, je dirais, tout le monde sortait meilleur en sortant du petit déjeuner. Parce que, je dirais, on avait échangé de façon libre et on a vu effectivement se créer une dynamique qu'il nous faut maintenant continuer. Je suis ravi d'ailleurs de voir que ça recommence et de voir que les choses reprennent aujourd'hui. Et c'était un peu le sens, je dirais, de la présence que nous souhaitions avoir sur la cité, de la présence, je dirais, de notre organisation, de notre esprit, de ce que nous portons comme valeur. Là, je ne parle pas de gamme, mais je parle, je dirais, de tous les responsables de Carousel et en particulier de notre Église, qui ont été, je veux dire, à l'origine de cette démarche. Voilà, alors, bon, aujourd'hui, je suis en train de dépasser l'heure que tu m'avais laissée.
Ça va encore un peu.
J'ai droit à combien?
Encore un quart d'heure.
Oh, formidable. Vous allez encore me subir pendant un moment, hein. Donc, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous motiver? Je veux dire, alors, bon, il y a 1000 façons, je dirais, de s'engager. Il y a 1000 associations dans lesquelles on peut s'engager. Le bénévolat s'est renouvelé avec... on parle bien entendu des grandes organisations traditionnelles, Caritas International, bon, le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, et j'en passe, beaucoup d'autres. Mais on a vu qu'aujourd'hui, la protection civile, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une initiative extraordinaire, c'est celle de Coluche avec les Restaurants du Cœur. Bon, aujourd'hui, on a, je dirais, quelque chose de nouveau qui a provoqué un engagement très fort, et on peut penser que cet engagement, je veux dire, il peut continuer à vivre, il peut continuer à exister, et au fond, je dirais, ce qui montre que l'abbé Pierre, avec sa démarche, aujourd'hui est encore possible, et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a payé ses impôts, parce qu'on a payé ses cotisations sociales, qu'on peut dire qu'on est quitte. Je crois qu'on peut faire mieux que tout ça. D'abord, il y a quand même dans notre pays 12,5 millions de bénévoles. Milieu sportif, culturel, social. Il n'y a pas simplement, je veux dire, le domaine social. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver? D'abord, très souvent, c'est l'indignation. L'indignation devant le sort qui est fait à un certain nombre de non pas simplement de nos concitoyens, mais des hommes et des femmes qui sont autour de nous, qui nous entourent. C'est l'abbé Pierre et le refus de la misère. C'est Stéphane Hessel, indignez-vous. Mais ça doit aller au-delà, et je crois que de la seule indignation et de la revendication, et ça nous permet, je dirais, d'aller beaucoup plus loin. Alors, il y a l'engagement, je veux dire, dans une association, mais il y a aussi des engagements personnels. Je voudrais citer 2 cas récents, qui sont un à Montpellier et l'autre un peu plus loin, à Chicago. À Montpellier, c'est une famille qui a décidé de prendre en charge une jeune femme qui a réussi à s'extraire de la prostitution, dans laquelle elle avait été insérée par des réseaux de passeurs, mafieux, etc. Donc elle a réussi à en sortir, et aujourd'hui, je veux dire, cette famille a décidé de la soutenir tous les jours, à la fois pour faire en sorte qu'elle réussisse son intégration, mais aussi, je veux dire, pour lui permettre de passer les moments, les moments de stress, de découragement, d'abandon. Et donc, et là, je crois que cette famille, je dirais, est remarquable. Et je voudrais citer ce cas parce que ça montre qu'à la fois, on a des engagements qui sont des engagements plus globaux, anonymes, mais là, des engagements très précis. Le second, je dis que je prendrai à Chicago, comme je le connais depuis avant-hier soir. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ça à mon papier, bien entendu. C'est deux jeunes femmes qui ont 23 à 25 ans, qui ont été recrutées dans des entreprises de sécurité cybernétique, donc on est déjà au top niveau, et qui se disent qu'au fond, gagner de l'argent, c'est bien, aux États-Unis, donc on gagne de l'argent, et elles ont décidé de prendre en charge une jeune transgenre qui a été chassée de chez elle, et pendant 2 ans, de lui payer ses études de façon à ce qu'elle puisse, je dirais, avoir une vie qui soit une vie libérée. Donc voilà, je voudrais citer ces deux exemples parce qu'ils montrent bien qu'ils ne sont pas simplement, je dirais, de rentrer dans une association, mais aussi, je veux dire, des engagements qui sont des engagements plus personnels, plus discrets, mais qui sont des engagements vrais. Alors, qu'est-ce qui peut nous motiver? Bon, d'abord, se sentir utile. Se sentir utile avec le sentiment de participer à la création d'un monde plus solidaire, de réaliser, de s'inscrire dans une cause qu'on estime juste. C'est aussi, pour beaucoup, la possibilité de développer des compétences, montrer que la vie intellectuelle ne s'arrête pas avec le départ à la retraite ou avec, à la sortie du bureau, mais qu'effectivement, l'expérience qu'on a acquise dans les associations s'ajoute à ce que l'on sait. Moi, j'avoue très honnêtement, en l'espace de 15 ans, j'ai fait une formation professionnelle pas très accélérée, parce que on perd un peu d'agilité avec le temps. Donc, c'est vrai, tu verras. Bon, tu vois, t'as pas mon âge encore.
Une promesse ou une menace?
Non, c'est une promesse. Une promesse. Et donc c'est de même que je ne pas. Alors, là, on a aussi des jeunes. Des jeunes qui viennent nous voir et qui mettent, cette expérience dans leur curriculum vitae. Moi, quand je suis employeur, j'embauche, je vois quelqu'un qui a pris des engagements personnels, qui n'a pas simplement bien fait le travail qu'on lui avait dit, mais qui est capable, j'allais dire, de prendre des initiatives et de s'engager sans contrepartie. Je me dis, là, j'ai quelqu'un de solide. Donc, entre deux diplômes équivalents, celui ou celle qui a, qui donne le sentiment d'avoir, d'être capable de faire plus et de s'engager, ben ça, moi, ça me paraît, je veux dire, un petit peu, c'est un plus, et je veux dire que ça valorise, je veux dire, un petit peu plus ce que l'on fait. Et puis, des fois, cet engagement répond aussi à un besoin de lien social entre les gens qui participent, parce que il y a un retour pour soi, c'est de retrouver une communauté qu'on a perdue en quittant la communauté de travail, en quittant la communauté sportive. Le jour où on joue plus au foot, soit on accompagne les jeunes footeux, soit on fait autre chose. Donc, je veux dire, ça permet de retrouver cette possibilité. Alors, il peut y avoir aussi, je veux dire, pour certains, un engagement spirituel. Alors là, je ne vais pas rentrer dans des autres considérations théologiques, parce que je sens que la censure s'appliquerait à moi immédiatement. D'ailleurs, on me rappelle que c'est bientôt l'heure et qu'il faut que je m'arrête. Donc, moi, j'ai survolé ça un peu en touriste. Un peu en touriste, mais je vous lirai 2 ou 3 phrases. Bon, d'abord, comme tu le disais tout à l'heure, je veux dire, cette liberté acquise, l'Ancien Testament dit « Tout Israël est solidaire de chacun de ses membres, et quand la nation accepta ce commandement, aimez-vous les uns les autres, elle fut digne de recevoir la Torah, et ceci seulement après être sortie de l'Égypte et constituée en nation. » Bon, l'élargissement à l'extérieur de la communauté juive a été prôné ensuite par un certain nombre de responsables religieux, Rabbi Elazar, qui dit qu'il n'est pas simplement que tout Israël soit solidaire, tout le monde doit être inclus dans cette solidarité. Celui qui applique le commandement de cette solidarité apporte satisfaction au Créateur, dit-il, sans contrepartie, et contribue au développement du monde. Quelle ambition ! Quelle ambition ! Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très motivant. Et le Coran, lui, prône la solidarité essentiellement en direction des membres de l'Oumma, avec une timide extension partielle aux autres populations. Mais dans les textes, dans le Coran, on trouve ce sentiment, je dirais, un peu de création de cette relation de partage. Le dhimmi a droit à une certaine solidarité parce qu'il participe à la vie de la communauté à travers, bien entendu, la dhimme qu'il doit payer. Bon. Là, c'est...
L'Oumma, c'est la communauté musulmane. Oui. Les dhimmis sont ceux qui sont extérieurs à la communauté musulmane.
Et donc, alors, après, bien entendu, la sourate 3 et le verset 273, il assimile cette action de solidarité à l'aumône. Quelle que soit l'aumône que vous ferez, la forme qu'elle peut prendre, Dieu la connaîtra. Une telle conduite effacera vos péchés. Donc il y a quand même l'idée d'une récompense. Là, tu vois, on est un peu... On n'y est pas, là. Dieu est instruit de ce que vous faites, et bien entendu, en rendra compte. Alors apparaît la notion, dans le Coran, de la récompense sous la forme du pardon des péchés. Cela nous conduit nécessairement, je dirais, aux expressions chrétiennes de l'engagement solidaire. Bon, je ne vais pas faire la comparaison entre la théorie du mérite et la théorie de la grâce. Je vais simplement mettre en exergue ce point que je n'ai pas trouvé dans l'Ancien Testament, ni dans le Coran. Le commandement biblique reste le même. L'enseignement du Christ est encore plus précis. L'injonction biblique, titre de s'exposer dans Matthieu, prend un sens encore plus fort, parce qu'il s'adresse non seulement aux croyants, mais à la personne secourue, et donne ainsi un sens à l'aide à apporter à la personne aidée. Et c'est le sens que veut donner notre intervention, de donner une chance de plus grande autonomie, parce que cette autonomie est source de dignité, parce que cette autonomie retrouvée conforte le sentiment de l'égalité entre les personnes, parce qu'elle nous met à l'abri de la tentation de la solidarité administrée, qui ne doit pas être simplement un supermarché des aides sociales. Alors on peut se demander pourquoi s'engager si on n'y gagne pas notre salut. Là, je laisse, bien entendu, je dirais aux théologiens, le soin de faire la comparaison entre la théologie du mérite et la théologie de la grâce. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou qui l'auraient eu trop vite, je vous conseille de relire « La grâce pour tous » de James Woody, qui est un ouvrage remarquable. Et où, d'abord, très honnêtement, en plus, ça m'a fait plaisir. Alors, faites-vous plaisir, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Puis par hasard, vous ne l'avez pas lu, mais vous l'avez tous lu. Si vous l'avez lu, relisez-le, vous verrez, ça fait du bien.
C'est pas simple du tout.